Libre Radio Noctambule, de vers du tintement des lucioles, sous le bruissement des feuillages se dissimulent brasier, tumulte et sédition. Libre Radio, le message derrière le message, derrière le message. www.libradio.org.
Bienvenue Yara, nous sommes ravis de t'accueillir. Nous allons parler mémoire, une mémoire blessée, suite au deuxième long métrage, à ton deuxième long métrage, un documentaire qui fait suite il y a 5 ans de cela à La Barque n'est pas pleine, qui s'appelle celui-ci, mais d'où est la mémoire, la mémoire me fait mal, et qui vient de sortir ces derniers mois. Alors d'abord on est ravis de te recevoir. Et voilà, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer pour expliquer ce qui se passe dans ce film-là? Je pense qu'il faut commencer par dire 11 septembre 1973, parce qu'effectivement le 11 septembre est une date devenue maintenant, suite aux événements aux États-Unis, voilà, qui a marqué la mémoire collective, ce qui fait que ça occulte un petit peu quelque chose qui s'est passé le 11 septembre 1973, le moment du putsch militaire du général Pinochet qui va contraindre, suicider d'une certaine manière Allende, le président démocratiquement élu, un président socialiste que d'aucuns au Chili appelaient compañero presidente. C'est un travail de mémoire que tu fais là-dessus. Alors voudrais-tu peut-être te présenter déjà, qui es-tu Yara, et pourquoi ce film, ces deux films qui touchent à la mémoire et à une mémoire qui est complexe, délicate et ébréchée pour le moins.
Alors moi je m'appelle Yara Heredia, j'ai grandi en Suisse, à Lausanne, et cette histoire, elle fait partie de l'histoire collective de la gauche, mais aussi de l'histoire de ma famille. À la fois c'est une histoire un peu personnelle, mais aussi politique, et j'avais envie de raconter cette histoire, cette mémoire, de qu'elle tombe pas dans l'oubli. Il y avait plusieurs choses que j'avais envie de raconter. Ça s'est fait à travers deux films. Le premier, La barque n'est pas pleine, où avec Daniel Viss, on revenait surtout sur la question de la solidarité qui avait eu lieu après le coup d'État au Chili, en Suisse. Donc un fort mouvement de désobéissance civile qui s'est organisé pour accueillir des réfugiés de ce pays-là, alors que le gouvernement était plutôt contre l'accueil de ces réfugiés. Il proposait d'en accueillir que 250. Et ça paraissait bien peu comparé aux réfugiés de Hongrie ou de Tchéquie qui, à juste titre, avaient été accueillis de manière très généreuse. Donc il y avait d'un côté cet aspect-là que j'avais envie de raconter, surtout en écho avec l'actualité, et aussi l'histoire du Chili. Ajouter un peu une pierre à cette mémoire, c'est-à-dire de dire que ce qui s'est passé au Chili, et là c'est plutôt dans le deuxième film, que cette fois je réalise avec Bastien Genoux, où on a décidé de parler plutôt de ce qu'avaient vécu aussi les Chiliens avant le coup d'État. Cette histoire, elle est aussi un peu occultée. Qu'est-ce que c'était un peu le Chili, le mouvement social qui existait au Chili pendant le gouvernement d'Allende, tout ce que les espoirs que ce gouvernement a suscité, les mouvements qu'il y avait, et après, les coups d'État et aussi ce qui s'est passé par la suite.
Mmh. Alors, des questions vont s'égrener, bien entendu. J'aurais envie de commencer par celle-ci. Pour commencer d'une certaine manière par la fin, qu'en reste-t-il de ce qui s'est passé? Qu'en reste-t-il de la pensée d'Allende? Qu'en reste-t-il au Chili, chez les jeunes actuellement? Et qu'en reste-t-il chez les Chiliens de Suisse?
Alors je pense qu'au Chili, la mémoire, c'est un peu délicat. Hein. Comment on en parle, c'est difficile. Il y a quand même des avancées qui ont été faites. Il y a un musée de la mémoire qui existe depuis 2010, qui fait un très bon travail. Un travail d'ailleurs qui est excellent, avec des moyens, pas toujours beaucoup de moyens, mais ils font ce travail-là. Une chose qui a noté quand même, c'est que le musée de la mémoire, ça s'attarde plutôt sur ce qui s'est passé à partir du 11 septembre. Hein. Oui. On revient pas tellement sur ce qu'il y a eu avant. Donc c'est toujours une bataille. Hein. Il y a toujours deux camps, on pourrait le dire, au Chili, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Disons, la constitution qui est actuellement, c'est toujours la même. Il y a la loi antiterroriste qui réprime encore aujourd'hui les peuples indigènes, notamment les Mapuches, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi une mémoire, il y a des mobilisations contre contre la discrimination des Mapuches, qui sont toujours dans la lutte. Il y a aussi les mobilisations étudiantes, très importantes, parce qu'évidemment, le pays a été tout privatisé avec les politiques néolibérales de Pinochet. Et donc, il y a des luttes qui existent aujourd'hui encore, assez fortes.
Et concernant les Chiliens de l'extérieur, et notamment ceux en Suisse, on peut dire qu'à Genève, il y a une diaspora chilienne, historique même, hein, dans le sens où, d'ailleurs, à quelques rues d'ici, donc du côté du Collège Voltaire, hein, habitait pendant des années... Gracias a la vida.
Violeta Parra.
Voilà, Violeta Parra habitait là. Ouais. Et d'ailleurs, elle accueillait les étudiants, les universitaires, elle leur préparait à manger. Enfin, il y avait toute une vie sociale et elle les menait à la manifestation à l'époque pour parler également du franquisme, contre le franquisme. Donc, il y a une histoire de la diaspora chilienne à Genève.
Oui, et en Suisse, hein, on peut dire que...
Pardon, en Suisse, oui.
Effectivement. Donc cette histoire-là, c'est vrai qu'elle est un peu occultée. Et comme l'histoire des étrangers, des réfugiés, des migrants en général, disons, quelle place ils ont dans notre histoire nationale suisse, notre guillemets, hein, parce qu'ils font partie de cette histoire. Donc effectivement ça, on peut dire dans tous les partis politiques aussi, malgré qu'ils avaient été interdits de faire de la politique, beaucoup se sont engagés citoyennement dans différents partis, de différentes manières. Et il y a beaucoup d'associations, ils ont été très actifs, que ce soit des associations culturelles, des associations politiques, il y a l'association Mémoire et Justice, rien que pour dire de parler de Genève, hein, l'association des résidents chiliens de Genève. Ils sont très actifs. Aujourd'hui encore, il y a aussi les nouvelles générations du Chili qui s'étaient formées pour le 40e anniversaire du coup d'État et qui sont des deuxième, troisième générations et qui sont toujours là et qui regardent toujours le Chili à partir d'ici et qui soutiennent les luttes là-bas en partie aussi.
Ouais, effectivement, ils sont très très actifs. Souvent d'ailleurs, on est amené à les rencontrer pour X raisons. Il y a une fondation Allende au Chili, non ? À Santiago, qui également avec lesquels tu as certainement travaillé pour ce film.
Oui, eux, ils nous ont bien aidés aussi, et ils ont leur fondation, ils nous ont accueillis, et ils nous ont passé aussi des arpilleras, desquels on parlera peut-être après.
Oui.
Et pour la petite anecdote, une fois qu'on allait là-bas en taxi, à l'époque, quand on a tourné le film, on a demandé où était cette fondation, et le taxi a dit « Ah non, non, ça je connais pas », voilà, il nous a laissé deux rues plus loin, disant que non, il avait jamais entendu parler de ça.
Incroyable. Toi, tu es une enfant, disons, née... après, juste au moment, pas loin du putsch. Quelles sont les représentations que tu as de la figure d'Allende pour toi ? Comment est-il présent ? Je te parle de ça parce qu'après, j'aimerais qu'on parle justement de la fabrication de ce film qui s'appuie certes sur des témoignages, donc des personnes que tu as fait parler. Et j'aurais voulu savoir ensuite si, effectivement, ça a été compliqué de faire ressurgir ces témoignages qui sont... J'imagine pour des personnes des moments, des épiphanies, des moments plutôt glorieux d'une certaine manière de lutte, mais également des moments de torture, de souffrance, hein, lorsqu'au stade national on torture, lorsque des gens disparaissent, etc. etc. Mais voilà, j'aurais voulu avant tout que tu te situes toi-même par rapport à ça, par rapport à ton histoire personnelle et ton ressenti personnel qui fait que, hop, je veux faire ce film.
Moi j'ai grandi bercé par ces souvenirs-là. Hein. Disons, mon père était un réfugié du Chili,
oui.
Brésilien. Qui avait premièrement été accueilli chaleureusement par le gouvernement d'Allende. Ils étaient beaucoup de latino-américains qui étaient là-bas, Haïti, Bolivie, etc. Il y avait vraiment des milliers de réfugiés là-bas. Et après le coup d'État chilien, il a dû s'exiler en Suisse avec beaucoup d'autres de ses camarades. De l'autre côté, ma mère, elle est espagnole. Elle a quitté l'Espagne de Franco quand elle était étudiante, elle était militante aussi. Et ils se sont rencontrés en Suisse. Et bref, moi j'ai grandi à Lausanne. Et c'est vrai que j'ai aussi grandi, il y a cette figure d'Allende d'un côté, mais il y a aussi toutes les dissensions qui existent au sein de la gauche, et aussi toutes les critiques qu'on peut faire de l'extérieur avec un ton distant, disons. Mais voilà, j'ai aussi beaucoup entendu parler de ça. Et c'est difficile de se positionner. Disons, moi j'ai voulu donner la parole un peu à plusieurs personnes qui venaient tous de partis différents et pour voir un peu leur point de vue aussi à eux.
Ça nous dit beaucoup justement de la posture qui t'a habité pour construire ce film. A-t-il fallu déverrouiller les mémoires ou est-ce que les gens assez facilement se sont livrés sur ce passé ?
Alors ça dépend, il y a des personnes pour qui c'était plus difficile que d'autres. Celles qui sont dans le film, finalement, elles l'ont fait et ça n'a pas toujours été simple, non ? Je pense qu'aussi le fait qu'autant d'années soient passées, ça a pu aussi aider. Mmh. Et il y a des choses évidemment qu'on n'a pas forcément abordées. Et c'est là que sont aussi le rôle des arpilleras, notre visuel. Mais c'est vrai que revenir sur ces événements, pour moi, c'était aussi difficile. et d'aller interviewer mon père sur cette histoire-là, demander les choses qu'on n'avait peut-être pas demandé. Enfin, moi, j'ai recueilli un peu, depuis toujours, un peu, c'est des choses qu'on ne demandait pas forcément, mais qui étaient présentes et qu'on entendait, et j'entendais. Moi, j'ai toujours entendu, ça se discutait.
Oui. C'est ça, c'est quand on est enfant et qu'on entend les adultes parler et qu'on comprend certains mots, mais on ne comprend pas peut-être le sens général de la phrase, mais ça marque. C'est la marque, et c'est assez intéressant de revenir quelques années après, d'autant plus avec un travail mémoriel, comme tu l'as fait, sur ces questions qui nous ont un petit peu habités d'une certaine manière, et de les revisiter. Voilà. J'ai envie de citer, c'est toi qui le cite, qui la cite, hein, Carmen Castillo, « Le souvenir, c'est la subversion, puisque nous nous battons contre une machine d'oubli ». Voilà, ça c'est une notion centrale dans ton travail, je pense.
Oui, c'est un des moteurs aussi, hein, de dire, ben, voilà, en face, on a, voilà, c'est l'histoire des vaincus, hein, faut le dire, c'est l'histoire des vaincus, mais cette histoire, elle doit vivre, parce que à plusieurs niveaux, c'est-à-dire, c'est une question de justice, c'est une question de vérité, c'est une question de savoir ce qui s'est passé, et aussi de dire, mais voilà, en quoi est-ce qu'on peut s'inspirer, hein. Il y a tout l'aspect tragique de la répression et de ce qui et cette défaite. Mais il y a aussi tous les espoirs, tout cet élan, toutes ces mobilisations, toutes ces idéaux de justice qui sont bien réels et qu'on peut transposer aujourd'hui. Que ce soit de ce côté-là, de ce qui s'est passé au Chili, des espoirs qu'il y avait là-bas et qui peuvent revivre et qui revivent dans toutes les mobilisations. Et aujourd'hui aussi avec l'aspect de l'accueil des réfugiés, eux, comment ils ont été accueillis, pourquoi et aujourd'hui comment est-ce qu'on accueille les réfugiés. Et ça, c'est encore une autre question, mais qui est très liée.
Absolument. Cette question-là allait venir, mais avant cela, j'aurais voulu savoir, une fois que le résultat est là, si des premières projections ont eu lieu, alors comment est-ce que tu juges ce résultat toi-même? Quels ont été les retours des témoins qui t'ont accompagné tout au long de ce documentaire? Ton père, par exemple, a-t-il vu le documentaire et qu'en a-t-il dit?
Bon, mon père est décédé en 2014, mais disons que tous les retours étaient très beaux. C'était très touchant. La première a été, on a fait 3 jours de première, disons, on peut dire ça comme ça, sur un week-end. Et il y avait vraiment une émotion très très forte, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et c'était vraiment très touchant. Il y a aussi le travail de musique qui a été fait. On a eu des retours à tous les niveaux, vraiment très 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 touchants. Et surtout des personnes qui l'ayant vécu, et aussi de deuxième génération qui ça leur donne aussi, ça les touche aussi beaucoup. Mmh. Et aussi pas que chilien. Hein. Enfin, je veux dire, c'est aussi une histoire qu'on peut être touché. Il n'y a pas besoin d'être chilien. Il y a pas besoin. Enfin, ça touche vraiment différentes personnes et assez fort.
Et oui, et c'est pour ça que nous allons parler des analogies que tu as déjà ébauchées que l'on peut faire entre cette histoire et ce qui nous touche aujourd'hui. Effectivement, tu l'as fait au travers de cette analogie entre cet accueil des réfugiés qui a pu faire défaut clairement au moment du putsch au Chili et qui continue de faire défaut aujourd'hui avec d'autres populations. On peut penser aux Syriens, aux Afghans, aux Érythréens. Ça te parle, j'imagine, beaucoup.
Ben oui, ça me parle beaucoup et je trouve que c'est dramatique. Enfin, encore il y a 2 jours, il y a une famille entière qui a été renvoyée en Géorgie dans des conditions terribles. Et la Suisse est d'ailleurs un très bon élève en la matière. Hein. On est les meilleurs, ceux qui font le plus d'expulsions. Il y a les accords de Dublin, etc. Donc, et on ne peut pas ne pas être sensible à ça, voir que la Méditerranée c'est devenu un cimetière. Et franchement, c'est impossible.
C'est terrible, comme tu dis. Penses-tu que ce film va pouvoir changer quelque chose à cette situation-là? Est-ce que le fait de... Et la question qui viendra après, c'est voilà les projections. Qu'en est-il jusqu'à présent et quel est le programme des prochaines projections? Et selon toi, voilà, le fait que des personnes puissent être touchées par ce film-là, est-ce que quelque part, ça peut là aussi continuer de faire surgir une sorte de conscience et d'empathie? Parce que j'ai l'impression qu'on manque gravement d'empathie et de solidarité en ce moment.
Alors j'en rêverais. Ce serait vraiment merveilleux que ça puisse avoir cet effet-là. Mais je crois qu'effectivement, c'est de l'ignorance, le manque de connaissances, de voir les réfugiés comme des numéros. Là, en leur donnant la parole, on dit, bah voilà, ça humanise aussi. De fait, c'est plus des chiffres. Ils ont leur propre histoire, leurs rêves. Et ils sont là, ils font partie de notre histoire aussi, à tous. Enfin, j'ai envie de montrer... Et ça, peut-être ça peut provoquer cette empathie, mais... Et en leur donnant la parole et en les humanisant un peu.
De les rendre touchants, enfin, de nous permettre d'une certaine manière de les rencontrer. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à la vue de ce film, c'est qu'on entend des témoignages, certes, mais on voit des postures, on voit des regards, et ça nous permet de, oui, de les rencontrer d'une certaine manière, et du coup de faire un peu nôtre d'une certaine manière, avec évidemment la distance et tout, leurs aventures, et de se mettre à leur place et de comprendre cette tragédie et de nous rendre d'une certaine manière solidaires. En tout cas, effectivement, moi je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à ce film, et j'espère bien que ce sera ça qui va avoir lieu. Les projections, alors, certaines ont déjà eu lieu. Comment ça s'est passé ?
Alors ça s'est très bien passé, on en a fait une à Madrid, la première, c'était très très émouvant. Et surtout ici à Lausanne, au City Puy, on a fait 3 jours, et là c'était là où j'ai ces retours magnifiques. Mmh. Là au Tessin, on va en faire une à la fin du mois de mai, au Tessin. Et après, le 6 juin à Genève, pour la première fois, à l'UOG, à 18h. Et on aura toute une table ronde à la fin, avec des protagonistes du film. Teresa Veloso, Liliana Moran, Anes Reiser qui avait protagonisé le film antérieur, Jean Ziegler aussi sera là, ce sera une super table ronde.
Jean Ziegler qui est absolument émouvant dans le film lorsqu'il témoigne, et voilà, où il parle de la population qu'il rencontre là-bas, et enfin j'ai trouvé par ailleurs, hein, mais tous les témoignages sont extrêmement touchants, en tout cas dans ce documentaire. Voilà, peut-être quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que autant il y a une fibre émotionnelle par laquelle on est prise, mais autant il y a vraiment tout ce côté rationnel, cognitif disons, qui nous permet de faire nôtre cette situation là d'une certaine manière. Et puis alors ensuite, tournée de projection, pourquoi pas jusqu'à Santiago, jusqu'à pire, Valparaiso.
Ce serait le rêve.
Valparaiso qui est donc le lieu où la caserne d'où sont partis les premiers chars de Pinochet à l'époque en 73.
Effectivement, oui, alors là on aimerait beaucoup, surtout au musée de la mémoire, hein, pour revenir là, ils l'ont vu, ils l'ont beaucoup aimé. Donc ils sont enchantés, ils ont envie qu'on vienne le présenter. Alors voilà, on va essayer de faire ça possible. Là où il y aura le plus de projections, ça va être à partir du mois de septembre. Donc là, on va commencer à faire des projections dans plusieurs cinémas, plusieurs villes de Suisse. Et on vous tiendra au courant.
Ah ben, nous, on demandera de toute façon. Y aurait-il des festivals vers lesquels tu pourrais aller ou auxquels tu as déjà pensé ? Des festivals, non, pas encore.
Pas encore, non.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout ce travail, bien sûr. Est-ce que les personnes, voilà, un appel qu'on peut lancer ici à la radio, c'est que des personnes qui souhaiteraient, pourquoi pas, le projeter, comment peuvent-ils te solliciter ? Y a-t-il un site internet concernant le film ? Ou de quelle manière est-ce qu'on te contacte ?
Oui, alors on a sur internet, vous pouvez taper Medole la Memoria, on a une page Facebook, on a aussi le producteur Bastien qui a Détour Film, sa maison de production, donc on peut contacter aussi là ou par Facebook.
D'accord.
Et on attend, on est très heureux, et toutes les projections qu'on veut faire, on est enchantés.
Une des choses qui apporte beaucoup à ce film, ce sont les arpilleras, si je prononce bien.
C'est juste.
Alors, qu'est-ce donc que les arpilleras ? Voudrais-tu nous dire ce que c'est, à quoi elles répondent et de quoi elles ont l'air ?
Alors les arpilleras, c'est le visuel principal du film. C'est des tableaux cousus que faisaient les femmes pendant la dictature. Et bon, ça n'a pas commencé pendant la dictature. Déjà avant, la Isla Negra, les femmes le faisaient. Et après, Violeta Parra, justement, qui on parlait tout à l'heure, on a fait aussi beaucoup. Elle parlait, les arpilleras, c'est des chansons cousues. C'est avec des chutes de tissu qu'elles avaient récupérées dans les usines ou n'importe où. Les femmes faisaient des tableaux cousus, comme des espèces de patchwork, où elles racontaient ce qu'elles vivaient, et notamment la disparition de leurs proches, la perte d'emploi. Elle s'était retrouvée, beaucoup de femmes, dans des situations très très précaires, grâce aussi au vicariat pour la solidarité, qui était lié à l'église catholique. Elle se faisait ces tableaux cousus, qu'après elle vendait, et elle subsistait grâce à ça. Et ces tableaux, après, partaient à l'étranger, où ils étaient achetés, notamment ici sur nos marchés. Hein. On pouvait acheter des arpilleras qui soutenaient la résistance des femmes là-bas. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a une très très grande collection qui est au musée de la Mémoire, au musée Salvador Allende. Il y en a un peu partout dans le monde. Et voilà, elles sont extraordinaires. Elles racontent vraiment ce qu'elles ont vécu. Elles racontent ce qu'on peut pas des fois dire avec les mots. Elles racontent d'une manière très poétique à la fois, et très des choses terribles de manière très colorée. Et c'est ça tout le contraste aussi, que je trouve que c'est aussi très symbolique de l'Amérique latine, où on peut voir ces images à la fois colorées et dures. Et notamment, ça donne aussi leur point de vue. Surtout notamment des femmes des quartiers populaires qui n'avaient pas forcément d'autres moyens d'expression. Mmh. Et elles ont détourné cet acte complètement domestique et féminin d'intérieur, tout d'un coup dans une revendication politique qui a fait le tour du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Mmh. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de donner la parole à ces femmes à travers leur travail. Et on a eu la chance, en plus de tout ça, c'est d'aller rencontrer des arpilleristas qui aujourd'hui continuent à faire des arpilleras. Elles font ça à Santiago, elles donnent aussi des ateliers au musée de la mémoire. On a pu les rencontrer et on a même pu leur demander d'en faire quelques-unes qui étaient liées plutôt à l'aspect suisse de notre histoire que pour lesquelles on n'avait pas d'arpillères.
Ok, c'est effectivement très intéressant et c'est vrai que c'est une plus-value dans le film parce que ces images, comme tu l'as dit, contrastent avec une répression féroce de l'époque et une sorte de moyen, entre guillemets, dérisoire, mais qui est un moyen de mémoriel, qui est un moyen tellement pacifiste et tellement bienveillant de dire quelque chose de tellement fort que effectivement, en tout cas, dans le scénario du film, eh bien, elles trouvent toute leur place. Comment est venue cette idée d'insérer entre les témoignages des différentes personnes justement ces moments où on voit, on découvre, parce qu'il y en a quand même plusieurs dans le film.
Oui, alors c'est venu un peu par hasard. En fait, on s'est dit mais comment on pourrait illustrer cette histoire, quelle qu'elle pourrait être, et donc on est tombé sur ces archives. Moi je connaissais ce travail mais j'avais pas tout de suite pensé à ça. Et finalement on s'est dit pourquoi pas. Déjà avec Daniel Viss à l'époque quand on avait fait le premier documentaire et finalement on avait trouvé beaucoup d'archives aussi à la télé. Donc le premier documentaire on l'avait fait avec les archives qui étaient extraordinaires aussi, on avait trouvé des archives, on ne pensait pas du tout qu'il y avait autant d'archives en Suisse qui traitaient cette histoire chilienne. Et là du coup on s'est dit alors c'est l'occasion maintenant, il faut vraiment qu'on donne à connaître ce travail.
Ouais. Un autre aspect central de la résistance et que tu abordes dans ton film c'est la musique. C'est Ntilimani, c'est Victor Jara, c'est toutes ces personnes-là. Voilà, ça c'est quelque chose aussi que tu voulais mettre en avant, parce qu'effectivement, l'illustration, la bande sonore du film, elle est incroyable.
Oui, merci. Mais la musique, c'est vraiment quelque chose que, dans l'exil, ça a été très important. La musique, les chansons, c'était une manière de protester aussi, protester, ça vient de l'espagnol, la protesta, non, comment dire, la dénonciation de ce qui se passait là-bas. Déjà sur place, ça a accompagné tout le mouvement social, la musique existait déjà, il y avait la nouvelle chanson chilienne, etc., avec tous les artistes que tu as cités. Et après, dans l'exil, beaucoup ont dû s'exiler, ils ont fait des tournées. Et donc ça, on a tous baigné un petit peu dans cette musique-là, et c'était vraiment très important pour nous de mettre cette musique. Et notamment il faut dire qu'on a travaillé aussi avec deux musiciennes, Malena Sardi et Lucie Maur, qui ont fait la bande originale. Mm-hmm. Après on a Maria de la Paz, aussi grande chanteuse musicienne qui interprète la chanson del Poder Popular, qui se l'approprie, et c'est magnifique comme elle le fait. Et on a Liliana Moran aussi qui chante une chanson de Pablo Milanés qui parle indirectement de la mort et l'assassinat de Miguel Enriquez, le dirigeant du MIR. Oui. Et aussi, on a
le mouvement de la gauche révolutionnaire, juste pour préciser.
Pardon.
Le mouvement de la gauche révolutionnaire.
Voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est la musique est très importante. Et on a aussi intégré aussi un poème de Pablo Neruda, qui lui-même avait dû vivre au Chili la répression, quand il était, parce qu'il était au Parti communiste pendant, je ne sais plus exactement, les années 50. Et bref, et il parle de la question d'être fugitif au Chili. Mm-hmm. J'avais envie d'intégrer aussi ce poème, parce que mon père, notamment, quand il était au Chili, il n'aurait jamais pensé que lui-même, il connaissait Neruda, il avait lu déjà dans son Brésil natal ces poèmes-là, il disait mais que moi je dois vivre ce que j'avais lu en fait de Neruda au Chili plus tard. Et donc c'était aussi une manière d'intégrer ça, parce que je sais que ça c'est quelque chose qui était présent pour lui quand il a dû lui-même fuir.
Mmh. La musique c'est également la mémoire, hein. Effectivement on l'a dit, Violeta Parra, Gracias a la Vida et tous les autres que tu as cités, les chansons comme Venceremos, comme El Pueblo Unido Ramasse la Mensi, donc qui ont traversé les âges et qui sont actuellement, on était au cortège du 1er mai, ces chansons émergent à nouveau. Je pourrais citer Bella Ciao aussi pour cette chanson-là. Ça fait partie de la mémoire, on peut dire, d'une certaine
manière. Oui, et là, c'est plus la mémoire du chilienne ou la d'Amérique latine, c'est la mémoire de la gauche. On entend, comme disait Bella Ciao, toutes ces chansons-là, aussi des chansons de la guerre civile espagnole qui reviennent, les chansons del Pueblo Unido qui sont dans les manifestations, qui sont reprises, et c'est ça qui est merveilleux, c'est une forme de souvenir toujours, et de dire c'est présent, hein, on continue, la lutte c'est pas terminé.
C'est ça, un hommage d'une certaine manière, mais un hommage opérationnel parce qu'il est en cours.
Voilà.
Et ça c'est intéressant. Revenons quelques instants sur la figure de Pablo Neruda qui décède, et au moment de son décès, et c'est extrêmement bien dit dans le film, quelque chose se déclenche. Des gens, à ses obsèques, vont dans la rue, manifestent et s'opposent clairement, alors que c'est une répression féroce dont on sait les conséquences. C'est un moment clé.
C'est un moment clé parce que finalement, ils étaient bien embêtés quand même. Ils ne peuvent pas ne pas rendre hommage à Pablo Neruda, en fait. Ils ont beau être la dictature fasciste, ils ne peuvent pas passer comme si de rien n'était. Et ils ne peuvent pas empêcher les personnes d'aller se réunir, c'est des obsèques. Donc c'est un moment vraiment particulier et où beaucoup de gens se sont rendus à ces obsèques, malgré ce qui se passait, c'était peu de temps après le coup d'État, et d'exprimer, dire on est là. On est là et on va pas disparaître comme ça. Et on va pas, voilà, le poète n'est plus là, mais nous on va le faire vivre quand même d'une manière, on va l'accompagner. Donc ça, c'est un moment très fort, effectivement.
Selon toi, qui serait-il les Pablo Neruda d'aujourd'hui? Est-ce que tu en as? Est-ce que c'est une question extrêmement difficile, je sais. Mais je me permets quand même de te la poser, parce que c'est vrai qu'on se dit, y a-t-il des figures comme ça auxquelles on a envie de se raccrocher? Non pas pour dire qu'on s'y soumet, bien entendu, mais qui accompagnent la lutte de tous les jours. Personnellement, j'aurais envie de mettre là-dedans des figures comme celle de Jean Tsigler également, qui, de par son âge et son parcours, sa trajectoire et ses valeurs, font partie d'une histoire à laquelle on a envie de revenir et que l'on a envie de mettre en avant dans une période qui est particulièrement compliquée avec les fake news, avec un déficit d'instruction peut-être de la part de jeunes générations qui vont au plus vite, au plus rapide et au plus émotionnel. Voilà, est-ce que selon toi, la poésie, mais également les intellectuels, sont partie du peuple, et y aurait-il, selon toi, je fais un peu long pour que tu aies aussi également le temps d'y penser, mais voilà, selon toi, y aurait-il des figures comme ça que l'on a envie de citer, que l'on a envie de mettre en avant pour dire, voilà, là, il y a quelque chose. Nous, par exemple, on adore donner la parole à des artistes comme les personnes d'avant, même très jeunes, qui, d'une certaine manière, sans le savoir, selon nous, font acte de résistance parce qu'elles vont visiter des univers pluriels, différents, inattendus, et souvent bienveillants, souvent pour aller vers l'autre, pour se questionner ensemble, et non pas contre nos pères humains, quoi.
Alors, je trouve que c'est difficile comme ça, comme question. Mais moi, je pense que, comme tu disais, il y a des artistes ici aujourd'hui et qui font ça, disons. Après, je pense que c'est aller voir. Ça ne veut pas dire que c'est des grandes figures qu'on ne connaît pas forcément. Disons, mais moi, j'ai beaucoup de voilà, dans la musique, dans certains artistes, mais aussi des gens qui ne sont pas aussi connus. Et puis qui font des choses au quotidien aussi. Mmh. Et voilà, je pense, moi j'ai beaucoup d'espoir dans les jeunes, dans les mobilisations qu'il y a actuellement aussi.
Le climat,
la question de la grève des femmes le 14 juin, enfin il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de, je vois beaucoup,
Tu es plutôt optimiste, selon toi, on est quand même, enfin il y a matière à être optimiste et en tout cas à être offensif.
Oui, toujours.
Yara, on va doucement arriver au terme de cet entretien. On en fera certainement d'autres parce que c'est un sujet qui est inépuisable. Mais j'aurais voulu encore, avant que l'on termine, parler d'une notion qui est centrale et que l'on a vue dans les murales, même dans les drapeaux, dans les slogans, dans les chansons. L'unité populaire, voilà, c'est une notion peut-être qui résume toutes ces luttes d'une certaine manière. Il y a cette volonté inclusive de dire on est toutes et tous ensemble, en avant, vers quelque chose de mieux.
Oui, et ça je le retrouve par exemple quand on parle du 99%, par exemple, enfin l'unité populaire au sens large. Là, c'était de s'unir, de créer des collectifs, d'être ensemble, et c'est comme ça des petites choses qui en enchantent des grandes, et c'est vraiment ce qui est le plus important, disons. Et moi, j'y crois. Et c'est l'histoire du 99%, c'est finir avec cette histoire toujours des rois, des reines et puis des châteaux, etc. Non, c'est l'histoire c'est notre histoire des gens ordinaires et vers quoi on y va ensemble, et puis se mettre collectivement pour, et c'est ce que j'ai dit souvent, c'est tisser de nouvelles histoires. Et on doit se baser du passé, mais on ne doit pas reproduire, on doit créer à partir d'aujourd'hui, sans oublier, en connaissant d'où on vient et l'histoire qu'on a.
Et ces projections, eh bien, elles seront l'occasion justement de se réunir et de former des égrégores, d'unités populaires d'une certaine manière.
Oui, j'espère.
En tout cas, on peut dire que les projections seront a priori accompagnées de discussions, où il y a vraiment en tout cas cette intention de créer des rencontres, de créer de l'éducation populaire d'une certaine manière. Ça va t'accompagner tout au long de ces prochaines projections, j'imagine.
J'espère, et j'aimerais, et on est très contents, on a très envie de rencontrer les personnes qui viennent voir notre film et après discuter avec elles. À chaque fois, on doit couper les discussions et dire bon, on se retrouve après, et parce que ça ouvre beaucoup de pistes, et nous, on est enchantés d'avoir cette discussion et de voir ces dynamiques qui se créent autour de nous.
On peut dire qu'il y a quelque chose de transversal et d'universel qui est présent là-dedans.
Complètement, oui. Ouais.
Alors, quelles seront, rappelle-nous, les prochaines projections, le site internet?
Alors, la prochaine projection, ce sera le 31 mai au Tessin. Et la deuxième aura lieu, là, ce sera la première à Genève, c'est le 6 juin à l'UOG à 18h.
Université ouvrière de Genève, c'est juste derrière la gare.
Voilà, très facile d'accès.
Oui, oui.
Donc vous attendez nombreuses et nombreux.
Alors voilà, ça c'est bien noté. Est-ce qu'il y a encore besoin, des fois a posteriori, on a quand même besoin encore de fonds ou un peu d'argent pour terminer, voilà, par exemple des sous-titrages ou terminer encore des bouts de travail. Est-ce que c'est la situation, est-ce que tu es aussi dans cette situation-là?
Oui, alors là on est vraiment au négatif. On a dû faire un crowdfunding pour terminer notre film, pour le faire, disons.
Ça n'est pas encore réglé, donc on peut lancer un appel. Vous êtes toujours à la recherche, parce que le crowdfunding est
terminé.
Voilà, oui. C'est ça. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé au début.
Oui.
Mais donc vous êtes toujours à la recherche quand même de fonds.
Oui.
Alors comment vous allez faire? Est-ce que vous allez refaire un crowdfunding? Ou alors est-ce que pour le moment, en tout cas, on peut dire déjà que si des personnes souhaitent faire un don, c'est possible via...
Voilà, nous contactons avec le site Adetour Film, Medulla la Memoria. Ou sinon, à travers la page Facebook, c'est toujours bienvenu parce que, par exemple, pour se déplacer, pour aller présenter le film, tout ça, c'est très compliqué.
D'accord, alors l'appel est lancé pour de l'argent, pour des cinémas ou des lieux, quels qu'ils soient, des associations, des collectifs qui auraient envie de vous inviter pour le film, etc. Eh bien, most welcome.
Oui, merci beaucoup. On serait enchanté.
Bon, ça c'est très bien. Alors, j'ai toujours une petite question, un petit peu délicate quand même. Je me dis... Voilà, lorsque on a... Parce que bon, maintenant, j'imagine que le résultat étant là, il y a une sorte de catharsis, parce qu'il y a tous ces événements, tous ces éléments qui t'ont habité tout ce temps-là. Il y a les projections maintenant. Est-ce qu'on est super concentré là-dessus ou est-ce que tu as déjà, dans un coin de ta tête, la suite qui surgit? Je ne sais pas, encore une suite, un troisième documentaire ou autre chose?
C'est vrai que on nous parle souvent de ça. Et on m'a fait des suggestions, enfin, beaucoup de personnes aimeraient qu'on continue, qui pensent qu'on n'a pas exploré tout. Évidemment, c'est le cas, c'est vraiment un tout petit grain de sable dans cette histoire. Il y a plusieurs pistes, mais actuellement, je travaille beaucoup sur la question de la mémoire en Espagne.
Qui est compliquée également.
C'est aussi,
c'est mémoire, notamment concernant la guerre d'Espagne,
voilà.
Qui n'est vraiment pas encore réglée.
Oui. Donc, en regardant le Chili, en voyant aussi... Et en mettant en perspective avec l'Espagne, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire là-bas. Il y a une loi de la mémoire historique qui a commencé en 2007, enfin, mais qui depuis, en fait, c'est vraiment terrible ce qui se passe. On voit très bien les réticences encore aujourd'hui. On parle de l'exhumation de Franco, est-ce qu'elle va se faire ou pas, etc. Donc il y a vraiment, là on a la résurgence de Vox, l'extrême droite qui est revenue, qui revient.
Aux élections.
Il y a quelque chose qui m'appelle. De ce côté-là.
On observe quand même qu'il y a beaucoup de cas où on occulte les mémoires. Hein. On pourrait revenir sur plein d'autres figures tutélaires un petit peu partout, que ce soit en Europe et partout dans le monde. On voit bien qu'il y a, il y a souvent, de la part du pouvoir répressif, oppressif, la volonté d'effacer les choses.
Oui, à la fois on efface des choses et d'autres qui ont pignon sur rue. Pour dire vraiment, toutes nos rues aujourd'hui, elles ont des noms. Elles nous rappellent à la mémoire. Mais quelle mémoire, en fait? Qui fait la mémoire? Où est-ce qu'elle est l'histoire critique un peu? Enfin, on la voit pas. Et c'est ce que je disais avant, c'est cette histoire. On est partout. Il y a de la mémoire, mais elle est unilatérale, j'aimerais dire.
Mmh. Ouais. Cette histoire des vaincus, finalement, qui a du mal à émerger, souvent. Hein.
Voilà, elle est absente.
On reparlera tout ça, certainement. En tout
Avec
cas,
plaisir.
Merci beaucoup, Yara Heredia. Le film, c'est Medulla la Memoria. Les prochaines projections, alors c'est au Tessin et à Genève le 6 juin, à l'Université ouvrière, juste derrière la gare Cornavin, ici à Genève. Merci et bonne continuation à toi.
Merci beaucoup, William. C'est toujours un plaisir.
Partagez.